Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, comme d'habitude avec Charles Gave, ici présent. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, nous allons évoquer plusieurs sujets. D'habitude, j'aime bien avoir au moins un fil conducteur pour vraiment avoir une émission complète sur un sujet. Et là, je me suis dit, il n'y a pas un sujet particulièrement qui me semble complet. En revanche, il se passe quand même des choses dans le monde. Et par conséquent, je voudrais évoquer plusieurs choses à la fois aujourd'hui. Et je voudrais...
Ça va être confus. Hein.
Voilà, ça va être un petit peu confus, mais c'est pas grave. J'ai toute confiance dans nos auditeurs pour bien réagir et sauter d'un pied à l'autre pour bien comprendre où l'on va. Le premier sujet que je voudrais évoquer, c'est le nouveau pape, puisque
oui.
Nous avions commenté la mort du dernier, François Ier. Donc, ici, il s'agit de Léon XIV, donc premier pape américain dans le sens de nationalité américaine de l'histoire, qui a été élu premier. C'est quel ordre aussi déjà? C'est un augustinien, c'est ça?
Donc,
c'est le premier pape augustinien aussi de l'histoire. Autrefois, nous disions janséniste. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez appris.
Une dérivation des augustiniens. Mais l'augustinien, attendez, ça doit remonter au 8e siècle, quelque chose comme ça. Ça remonte à loin. Et il me semble, je parle sous René Girard, qui était un très grand esprit dont on a souvent parlé ici, etc. Comme on le félicitait sur tout ce qu'il avait trouvé, il disait, vous savez, il y a les deux tiers de ce que j'ai trouvé qui étaient déjà présents dans Augustin, dans saint Augustin. Donc, c'est très intéressant parce que il faut savoir deux choses, c'est que René Girard est le penseur français qui a une influence énorme sur Vance, le vice-président américain, et Peter Thiel, celui qui a été son mentor. Et donc, on a un pape qui est un vrai intello, qui est un vrai intello, si
oui,
vous voulez.
Un vrai intello.
Il y a des gens aux États-Unis qui sont informés en ce moment, si j'ose dire, comme le vice-président Vance et Peter Thiel, là, qui sont aussi des, si j'ose dire, des augustiniens. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a eu deux grands pères de l'Église, c'était Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin, quoi. L'un, c'était Aristote, l'autre, c'était beaucoup plus mystique. C'est intéressant de voir que il y a des... On peut définir les papautés presque par leur le grand intellectuel qu'elles suivent, quoi. C'est marrant. Et là,
ouais.
on sait qu'il est plus augustinien que. Pourtant, il a fait des thèses aussi sur saint Thomas d'Aquin. Donc, mais enfin, je veux dire, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point finalement cette unité de la pensée chrétienne, quoi, qui remonte à 2000 ans, quoi. C'est, voilà, ce que je voulais dire, c'est intéressant parce que moi je l'ai regardé, d'abord il a une bonne tête, ensuite il a l'air modeste, il avait l'air ému,
ouais.
Ce qui était toujours important. Il va devoir payer des impôts aux États-Unis, le pauvre.
Ouais.
C'est vache. J'imagine que le salaire du pape, ça doit pas être énorme, non?
Alors là, je ne sais pas du tout quel salaire.
Oui, je crois qu'ils ont une franchise, les Américains quand ils sont à l'étranger, qui gagnent l'ordre de 250 000 dollars par an ou un truc comme ça. Donc. Ça m'étonnerait que le salaire du pape soit de 250 000 dollars par an.
Oui, je pense pas non plus.
Il y a peut-être des faut peut-être ajouter les services à la personne autour.
Oui, alors ça, pour le coup, à mon avis, c'est conséquent, mais sinon, le salaire, alors là, j'en ai aucune idée.
J'en ai aucune idée, ça doit pas acheter qu'un évêque ou un prêtre, c'est pas très bien payé, il y a pas de raison que le pape soit bien payé.
Ouais, c'est clair. Et alors, je trouve qu'il y a une sorte de... comment dire, de soulagement un peu par rapport à l'ancien pape qui a eu, comment dire, un règne un petit peu difficile, notamment à l'égard de la plupart des croyants qui ne se retrouvaient pas forcément dans les valeurs qui étaient prônées par
le souverain
pontife.
Ça a été le pape un peu des non-croyants. Il était très populaire chez ceux qui faisaient pas partie de l'Église catholique.
Oui, alors il y a beaucoup de ça, effectivement. Chez les anti-cathos, ils aimaient beaucoup...
Ils aimaient beaucoup François, ouais. Beaucoup.
Et en revanche, beaucoup moins au sein de la communauté. Alors qu'on avait dit ça devrait peut-être être
celui
un petit
qui
peu
avait
l'inverse.
Aussi des problèmes avec la messe en latin et tout,
oui.
Avec la tradition. Bref, mettons ceux qui ont de la sympathie pour l'Église catholique, mais ceux qui faisaient partie de l'Église catholique ont eu quelques années un peu difficiles avec lui.
Oui.
Et on avait peur qu'il ait mis tous ses hommes à lui partout pour être certain d'avoir un successeur.
Oui.
Et,
c'est pas aussi clair que ça. Bah, d'ailleurs, même ce pape, donc Robert Francis Prévost, de son vrai nom, qui a été fait cardinal par François et qui avait été repéré d'ailleurs par François en 2018. Et d'ailleurs, il avait été fait cardinal assez récemment puisque c'était en septembre 2023. Donc c'est marrant de se dire que cet homme, qui n'était pas du tout d'ailleurs pressenti vraiment pour devenir pape, a été élu pape. D'ailleurs, avec une rapidité quand même assez.
Oui, alors ils ont essayé, d'abord, il y a les bruits de couloir, là. Ils avaient essayé d'élire celui qui était le secrétaire du pape, enfin le numéro 2, son premier ministre en quelque sorte, italien. Et il a jamais développé. En une ou deux fois, il n'a pas dépassé 30% des voix, donc les gens se sont dit non, ben, c'est pas lui. Quoi. Vous savez, c'est toujours ce qu'on dit, celui qui rentre pape au conclave en sort cardinal. Quoi. Ouais. Ça a été encore un de ces cas-là. Donc. Il n'est pas exclu qu'il y ait eu une intervention de l'Esprit Saint.
Oui.
Sait-on jamais.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'avais essayé d'expliquer un peu les dynamiques qui pouvaient se passer au conclave lorsqu'on en avait parlé. Mais à la fois, ce qu'on disait, c'est que c'est quand même très imprévisible parce que les opinions politiques des cardinaux ne sont pas parfaitement linéaires. Pareil pour les appartenances de groupe, en fait,
sont beaucoup
plus floues. Il n'est
pas exclu que beaucoup d'entre eux veuille le bien de l'Église, c'est-à-dire il signe un papier en disant aucun cas vous ne pouvez, c'est votre opinion personnelle, littéralement vous serez damné si vous. Donc, c'est pas exclu que la plupart des cardinaux veuillent le bien de l'Église, quoi, même s'ils ont été nommés par quelqu'un,
bien sûr,
qui leur avait recommandé de voter pour quelqu'un d'autre, mais je pense pas que ça se passe pas comme ça dans l'Église.
Bien sûr, les cardinaux ne votent pas exactement comme les citoyens. On essaye de voter un peu
ni
pour
comme
sa
les gens qui font partie du parti radical ou du.
Oui.
c'est pas le même niveau.
Oui, oui.
De...
Non, c'est pas la même chose. Et effectivement, là, la voie qu'ils ont choisie, c'est plutôt une voie d'unité. C'est-à-dire que ce n'est pas, on pourrait pas vraiment le qualifier de pape à proprement parler, particulièrement conservateur, mais à la fois, c'est pas non plus vraiment un progressiste comme l'était François.
Non, et il a passé, il n'est pas âgé, hein, il a dû passer un tiers de sa vie aux États-Unis,
oui.
L'autre tiers au Pérou, où il a été, paraît-il, un très bon pasteur, et le troisième tiers au Vatican, où c'était lui qui était un peu responsable de la nomination des évêques, etc.
Oui, c'est ça.
Donc, ça fait. Il connaît bien l'Église, il connaît bien l'Amérique latine, ce qui est important. Il connaît bien les États-Unis. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai lu dans un journal, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a un abbé Prévost à Montpellier, qui a été un très grand résistant, etc., dans la dernière guerre, qui a sauvé des tas de gens, qui a un boulevard à Montpellier, ou j'en sais rien, etc., qui serait un oncle lointain. Quoi.
Ah ouais, c'est. Mais pas si lointain, du coup, quelque part.
Donc
parce que effectivement, c'est
un français, hein.
C'est un peu la trinité, géographique. On avait dit aussi qu'il y avait non seulement un clivage politique, mais il y avait un clivage géographique, que c'était particulièrement important pour François d'être un pape sud-américain, et en fait même du continent américain, le premier à ce moment-là, et que il y avait un peu une opposition entre le vieux continent et puis le catholicisme périphérique, celui du reste du monde, et ce pape là, il réunit en lui-même plusieurs géographies à la fois, puisque il est d'ascendance française, espagnole et italienne à la fois. Donc, en termes d'ascendance, c'est vraiment la sainte trinité
de
l'historique, de l'Église. Il est de nationalité américaine et en même temps, il a fait, comme vous l'avez dit, un tiers de sa vie.
Et il a la nationalité péruvienne aussi.
Ouais, et il a été évêque d'une ville au Pérou, Chiclayo. Et vraiment, il porte en lui ces trois géographies en même temps.
Et c'est. Je sais pas, moi j'ai trouvé. En fait, quand je l'ai vu apparaître, j'ai été ému.
Ouais.
Alors qu'avec François, je n'ai pas été ému des masses, je m'étais dit. Il avait une attitude, François, qui m'agaçait beaucoup, d'être agressivement, réclamer agressivement la pauvreté, quoi.
Oui.
Je trouve que ça m'a toujours beaucoup gêné, parce qu'il n'y a pas de mérite spécial à être pauvre, quoi.
Oui. Oui, puis c'est
pas, c'est pas une qualité, quoi. C'est,
oui. Et c'était un pape, mine de rien, assez assez autoritaire, assez austère aussi. Enfin, bon, c'est C'était un petit peu compliqué.
En tout cas, comme vous le savez, j'étais invité au pape Vatican il y a quelque temps, et on m'a fait déjeuner dans la maison des cardinaux, là où lui était logé aussi et tout. Et je peux vous dire en tout cas que la cuisine est dégueulasse.
Ah oui,
ils ne vont pas vous donner pas cardinal pour la qualité de la cuisine à Vatican. Ouais. Non, c'était vraiment pas mangeable.
Pourtant, c'est dommage parce que quand même, à Rome, c'est pas compliqué de bien manger, quoi.
Ben non, c'était ça qui avait d'étonnant. Je me disais, non, un chien, non, mais c'était juste mauvais, quoi. Il y avait un poisson qui était mauvais, il y avait tout qui était mauvais, quoi. Les fruits étaient pas mûrs, enfin, je sais pas. Alors, j'ai dit, bon, je veux bien qu'on soit pas sur terre pour rigoler, mais quand même. Le Christ,
on n'est pas obligé de souffrir non plus tout
le temps. On n'est pas obligé de souffrir. Et le Christ, il passait sa vie à table et il buvait des bons coups et il y avait des jolies femmes autour de lui, donc, faut pas rigoler, quoi. Toujours beaucoup plus sympathique pour le Christ. Il est toujours invité par des gens pas convenables.
Ouais.
Les pharisiens étaient très fâchés parce qu'il. Il ne l'invitait pas.
Faut peut-être réformer un petit peu la cuisine du Vatican à ce moment-là.
Ah oui, ça me paraît essentiel.
C'est peut-être un effet collatéral de la papauté de François. Peut-être qu'il a demandé à ce que, la cuisine soit mauvaise. La cuisine est trop bonne, il faut absolument la rendre mauvaise.
Écoutez, faire des pastas quand même, à Rome, ça doit être faisable. Quoi.
Et je me dis aussi que le conclave devait vraiment avoir pas mal confiance en lui parce que c'est un pape plutôt jeune quand même,
oui, 69
ans, c'est-à-dire qu'on peut lui donner peut-être 15-20 ans de pontificat.
En tout cas, c'est un pape qui est là pour longtemps, et donc il peut prendre des positions à long terme de si vous êtes toujours pareil, si vous êtes là pour 3-4 ans, vous essayez de faire ce qu'il faut faire, mais en fait, vous n'êtes pas... Tandis que là,
ouais, on gère les affaires.
Il a le temps, s'il veut labourer profond, il pourra labourer profond. Voilà.
Ouais, effectivement. Et précédemment, un des papes les plus jeunes aussi de ces derniers siècles, c'était évidemment Jean-Paul II, qui lui avait été élu, je crois, à 58 ans, et qui donc est resté aussi un temps certain. Qui a beaucoup marqué l'Église.
Quel homme.
Et qui, pour le coup, on disait que François était plus apprécié des non-catholiques que des catholiques. Pour le coup, Jean-Paul II était grandement apprécié et des non-catholiques et des catholiques.
Oui. Et il a converti un nombre de gens considérable.
Et alors, certaines personnes ont essayé d'identifier un petit peu les opinions politiques de ce nouveau pape, Léon XIV. Alors, déjà, première chose. Léon XIV, qu'est-ce que ça veut dire s'appeler Léon, se revendiquer de cette...
Ce que dit lui-même, c'est... il y a un Léon XIII qui avait écrit De Rerum Novarum, là, qui était la grande encyclique. Et ce qu'on ne dit jamais dans cette encyclique, sur lequel deux papes ont écrit ensuite des encycliques, deux commentaires sur cette encyclique, c'était Pie XII, pour les 40 ans, avait écrit une encyclique sur De Rerum Novarum, pour 50 ans, pour les 100 ans. Il y avait Santésimus Annus de Jean-Paul II. Et c'était l'encyclique dans laquelle l'Église prenait note de la croissance de l'économie, enfin du système capitaliste qui s'était mis en place, et de son opposé, le système communiste, et disait que le système communiste était totalement inhumain. Et condamnable, c'était une saloperie, c'était condamnable dans son essence, c'était abominable et tout. Et c'est ce qu'avait répété Pie XII, c'est ce qu'avait répété Jean-Paul II. Et donc, ça veut dire, s'il prend le truc de Léon XIII, qu'il accepte le monde moderne, mais qu'il accepte absolument pas le relativisme, C'est un pape... qui accepte la modernité, mais qui n'accepte pas les déviations de la modernité. Je suis assez content.
Ouais. Oui, non, mais comme j'ai dit...
Ça n'a aucune importance, d'ailleurs.
Oui, oui.
Je suis content ou pas, ça, c'était pas le but. Mais je veux dire par là...
Oui, mais en l'occurrence, on n'est pas mécontent, effectivement.
On n'est pas mécontent. Je me sens... Vous savez, quand vous avez... Même si vous n'êtes pas un très bon catholique, parce que ça n'existe pas, vous êtes, mettons, intéressé... Avoir le pape qui, dans le fond, professe des idées que vous aimez pas,
c'est difficile. Hein.
C'est pas agréable dans la vie de tous les jours. Vous dites, mais non, je suis pas d'accord avec lui, mais bref. Tandis que celui-là, je me sentirais un peu comme quand j'étais avec Jean-Paul II ou...
Mais d'ailleurs, il faut dire aussi, il est docteur en droit canon. Et le droit canon, c'est quand même assez important parce que ça veut dire qu'il mesure l'importance de la parole d'un pape. Et la parole d'un pape, justement, je trouve que un défaut de François, au-delà même des choses qu'il disait, c'était la facilité avec laquelle il les disait. C'est-à-dire que il faut réfléchir quand même à ce qu'on raconte quand on est pape, parce que il y a les opinions qu'on a en tant qu'individu, et puis ensuite ce que vous dites en public lorsque vous êtes pape engage derrière quand même toute l'Église.
Moi, il y avait une chose qui m'avait beaucoup irrité, enfin, avec François, c'est qu'un jour, on lui a posé la question sur le mariage homosexuel, vous savez, bon. Et il avait dit, qui suis-je pour juger? Et, bon, c'est une réponse, mais celui à qui les clés ont été données, c'est Pierre. Et le Christ a dit, ceux à qui tu pardonneras les péchés, ils seront pardonnés, ceux à qui tu ne les pardonneras pas, ils ne seront pas pardonnés. Donc, il n'est rien en tant que François, mais en tant que pape,
Oui.
il a le pouvoir de
Oui.
dire, c'est même, il est même, de dire ce qui est bien et ce qui est
Oui.
mal. Vous voyez ce que je veux
Donc,
dire?
qui suis-je pour juger? Bah, rien de, enfin, personne d'autre que le successeur de Pierre, quand même.
Et
C'est.
lui, en tant qu'homme, il ne
Oui.
pouvait pas juger, mais en tant que successeur de Pierre, c'était
Oui.
son devoir de juger.
Oui.
Et je trouvais absolument insensé que ce type dise, cet homme, qui suis-je pour juger? Mais
Ouais.
tu es Pierre, malheureux!
Oui. C'est ça, en tant que Bergoglio, oui, tu n'es personne pour juger, mais en tant que pape François, tu es quelqu'un,
C'est toi?
oui,
C'est
c'est
toi
à toi
qui
de le
dis? C'est
faire,
toi qui dis?
oui. Oui, puis encore une fois, c'est un peu une façon d'accepter le relativisme, c'est-à-dire que on peut dire ça sur absolument tout, qui
Voilà.
suis-je pour juger?
Ben
Bah,
voilà. On se défile.
voilà, on peut accepter le trafic de drogue, on peut accepter
Ben oui, parce qu'ils ont
l'avortement, ce que.
les pauvres enfants ont faim.
Voilà.
Donc il faut que je fasse du trafic. Donc tout ça m'agaçait beaucoup parce que c'est comme tous les jésuites, ils voulaient ramener l'Église dans le monde. Or, l'Église n'est pas dans le monde, elle est à côté du monde, mais elle n'est
Ouais.
pas dans le monde. Donc quelqu'un qui veut ramener l'Église dans le monde, ça m'agace.
Ouais, c'est ça. C'est comme ce qu'on disait l'autre fois, c'est que comment dire, des institutions qui sont dans le monde, il n'y a que ça. Et le principe de l'Église, c'est justement qu'elle doit être un petit peu en
Je
dehors du
l'ai
monde,
dû
quoi.
raconter 10 fois, mais ce que disait Bernanos, c'est que l'Église avait son gréement dans les étoiles et sa coque dans la merde, comme, enfin voilà, mais c'est vrai, c'est
Ouais.
ça l'Église, c'est
Ouais.
ça, gréement dans les étoiles, et puis malheureusement elle est aussi dans la vie de tous les jours, mais c'est pas la vie de tous les jours qui fait l'Église, c'est le
Ouais.
gréement dans les étoiles, enfin
Ouais.
c'est la combinaison des deux.
Ouais. Et là, dernièrement, on avait un peu coupé le mât pour renforcer la coque
Voilà,
et
pour vous
c'est.
expliquer qu'il y avait que la coque.
Ouais, c'est un peu ça. Alors, deuxième sujet, absolument rien à voir, ce qui se passe au Cachemire, donc l'affrontement en fait entre l'Inde et le Pakistan. Donc la semaine dernière, des affrontements ont débuté à compter du 7 mai. Ce conflit quand même latent autour du Cachemire existe depuis plus de 70 ans, depuis 1947 au moins. Mais les affrontements directs sont quand même très sporadiques. On a une marmite, on a l'impression qu'elle est pleine, mais qu'elle déborde pas ou presque jamais.
Bon, il y a quand même eu 7 ou 8, quoi. Il y a combien, quoi? 6 ou 7 guerres entre le
Oui,
Pakistan.
il
Ils
y
se
en a
mettent sur
eu.
la gueule
Oui, c'est
régulièrement.
ça, mais à chaque fois. Oui, c'est absolument. Et donc le 22 avril, un attentat terroriste dans la ville de Pahalgam sous administration indienne a fait 28 morts. Il est commis par un groupe islamique soutenu par le Pakistan. L'Inde, en réaction, suspend le traité des eaux de l'Indus, ferme la frontière d'Atari et annule le régime de visa avec le Pakistan. Sachant que le premier point, c'est-à-dire la suspension partielle des eaux de l'Indus, est quand même le plus important. Le 7 mai, l'Inde lance l'opération Sindoor, frappant des infrastructures considérées comme terroristes au Pakistan, tuant 31 personnes. Le Pakistan a ensuite riposté en ciblant des bases indiennes. Et des dommages collatéraux ont commencé à survenir, notamment sur une mosquée et sur un complexe éducatif. Et ce week-end, annonce d'un seul coup d'un cessez-le-feu. C'est d'ailleurs Donald Trump qui l'a annoncé. On avait vraiment l'impression que personne, mais alors personne tout autour, que ce soit les États-Unis ou que ce soit même la Chine ou toutes les puissances un petit peu adjacentes, la dernière chose dont elles avaient envie, c'était qu'il y ait une guerre à ce
Oui,
moment-là, surtout
alors
entre deux puissances nucléaires.
là, voilà, deux puissances éclair. Alors là, c'est très embêtant parce que, comme vous le savez, on a beaucoup dit que le futur appartenait au triangle Moscou-Pékin.
Oui.
Delhi. Alors bon, ça c'est un grand triangle. Et des Américains, Brzezinski, etc., les démocrates, étaient persuadés qu'ils pouvaient provoquer la Russie autant qu'il voudrait, jamais il y aurait d'alliance avec la Chine. Parce que ils étaient ennemis pour toujours à mort. Bon. Donc ils ont provoqué la Russie est rentrée en Ukraine. Et à ce moment, la Chine a pris le parti de l'Ukraine et avec la Corée du Nord, etc. Donc, première défaite morale des États-Unis, ils croyaient qu'il n'y aurait jamais d'alliance entre la Russie et la Chine, il y en a eu un. La deuxième chose, c'est que les Américains étaient tout aussi persuadés qu'il n'y avait aucune possibilité d'alliance entre l'Inde et la Chine, puisqu'elles se mettent sur la gueule pour un petit bout d'Himalaya qui est là-haut, dont tout le monde se contrefout. Et puis, on voyait très bien, ce que j'essayais de montrer ce matin avec Emmanuel, là, sur les deux, on voyait très bien que l'Inde était doucement en train de rentrer dans ce que j'appelle le cercle de Valérie Pierris. Vous savez, cette espèce d'endroit où, bah, avec les monnaies qui commencent à s'ajuster. Bon. Donc, l'Inde se rapprochait visiblement du point de vue financier de la Russie. Pardon, de la Chine. Et c'était insupportable. Donc, si je devais faire une hypothèse osée que je ne peux pas prouver, je dirais que la CIA a trouvé ça insupportable. La CIA a donné l'ordre au Pakistan de foutre le mardier pour essayer de casser ce rapprochement entre l'Inde et la Chine. Et que Trump a commencé par dire « Moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. » Puis s'est rendu compte ensuite de qui était derrière, c'est-à-dire une fois de plus la CIA. Et il a fait le nécessaire pour que ça s'arrête, quoi. Donc, chaque fois que la paix commence à éclater quelque part, si j'ose dire, vous rendez compte, il y a toujours quelqu'un qui vient avec, par exemple, l'attaque d'Israël en octobre 2023, cet octobre, là, si vous voulez, d'un seul coup, on était en train d'aller vers les accords d'Abraham, il allait se passer, etc., paf, il y a d'un seul coup, donc. Je crois qu'aux États-Unis, et peut-être en Iran aussi, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de la paix.
Oui.
Qui veulent continuer la guerre parce que la CIA ne fonctionne qu'en créant le chaos partout et en... Parce que j'ai l'impression que la CIA, c'est devenu vraiment un truc qui est complètement hors du contrôle de tout politique. C'est devenu une espèce d'association criminelle qui ont leurs propres sources de financement, leurs propres hommes partout, etc. Donc, c'est une immense mafia porteuse de guerre, quoi.
Mais alors, c'est possible, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de la CIA pour avoir un conflit? Parce que ça fait quand même 80 ans qu'ils ont envie de se foutre sur la gueule.
Oui, mais ça fait 80 ans que aujourd'hui, le Pakistan lui reste 7 milliards de dollars de réserve de change. Quand ils sont développés, quand ils sont séparés, donc c'était dans les années 40, ils étaient au même niveau de développement. Aujourd'hui, ouais. L'Inde, c'est une puissance moderne, c'est une démocratie. Là-bas, c'est un État qui a raté, il n'y a rien. La seule chose qui fonctionne vaguement au Pakistan, c'est l'armée. À part ça, c'est un désastre. Donc, c'est assez facile de demander à des gars au Pakistan d'aller foutre des bombes au Cachemire pour vous tuer 25 personnes, parce qu'à ce moment-là, on espère que l'Inde va réagir violemment.
Oui, c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé, mais on a arrêté avant que ça prenne feu vraiment, quoi. Mais c'est pour ça que j'étais très intéressé par ce pape, pour revenir à la première des choses, c'est que lui, il a dit qu'il voulait... Il a dit deux choses, la paix, parce qu'il paraît, et il a dit aussi le mal existe, le mal ne l'emportera pas. Et je me demande si aujourd'hui on ne pourrait pas dire que dans le fond le mal, à l'échelle mondiale, c'est la CIA, quoi.
Oui.
Le mal absolu, le mal essentiel, quoi.
Ouais, c'est un peu le principal chantier de l'administration de Trump, c'est lutter contre cet état profond, comme on disait.
Un état profond et qui n'a pas... Ce qui est étonnant, c'est qu'on se dit, mais il déclenche des guerres, mais il les perd toutes. Oui, il les perd toutes, mais...
Oui, mais ça enrichit beaucoup de gens.
Et voilà, ça enrichit beaucoup de gens et ça laisse un chaos qui est très propice.
Que la guerre soit gagnée ou pas.
Et voilà, si vous voulez, ils vendent toujours des armes en Libye, ils vendent toujours des armes en Syrie, ils vendent toujours des armes partout. Donc, le but n'est pas de gagner, mais le désordre.
Ouais, effectivement. Mais d'ailleurs, aussi pour revenir rapidement.
Mais j'en suis pas sûr du tout.
Oui, bien sûr.
Mais non, je trouve que quand même, ça commence à faire beaucoup, quoi.
Ouais. Et pour revenir une minute sur le pape, est-ce que ça a une importance le fait que ce soit un pape américain, sachant que Trump vient d'être élu aux États-Unis et que voilà, c'est pas commun de voir un pape américain, comme j'ai dit, c'est le premier de nationalité américaine. Donc,
ce qui est assez rare, c'est que le pape soit de la nation dominante.
Ouais.
Parce que par exemple, depuis 1250-1300, on avait compris que c'était pas quand la France dominait l'Europe,
ouais,
que c'était pas une bonne idée d'avoir des papes français. Donc parce qu'il fallait avoir un contre-pouvoir aux Français, quoi. Et donc là, c'est assez étonnant. Alors peut-être l'Église fait-elle l'analyse que les États-Unis ne sont plus la nation dominante.
Mmh. Ouais, soit c'est ça, soit la nation dominante est tellement dominante qu'ils réussissent même à choisir le pape. Mais
je crois pas, parce que.
Maldas qui est en pleine activité.
C'est rare.
Oui,
c'est... D'abord, il est sorti, il n'a pas voulu entendre parler de cette réunion,
ouais.
Et ensuite, il se met à aboyer. Donc, ouais, je crois pas que ce soit sale, parce que ça aurait été, c'était très facile aux États-Unis, ça aurait pu être très facile de donner aux États-Unis le pape dans les années 60, en pleine guerre froide et tout, c'était très facile. Parce que là, on sait pas très bien de qui les États-Unis sont l'ennemi, quoi.
Oui, effectivement.
Ou qui sont les ennemis des États-Unis aujourd'hui, Nick.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, Trump n'a pas vraiment choisi d'ennemis. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu le point avec ce que je vais dire après. C'est-à-dire que si éventuellement il avait une opposition avec un pays en particulier, c'était avec la Chine, mais plus sur le plan commercial. Alors après, ça reste quand même pas un grand fan de l'Iran. Ça peut être un petit peu plus sur le plan militaire, mais.
C'est surtout parce que l'Iran a passé son temps à financer le terrorisme partout,
oui,
l'Hezbollah, la Syrie, tout ça, ça a toujours été, c'est eux qui ont foutu en l'air le Liban, enfin bref.
Bien sûr. Bah, c'est le principal adversaire de la paix au Moyen-Orient.
Bah, si vous voulez rétablir la paix au Moyen-Orient, bien sûr. C'est, donc on va voir. Donc... En tout cas, si vous voulez empêcher la paix au Moyen-Orient avec le coup du 7 octobre, là, ils ont bien réussi.
Oui.
Parce que on peut pas dire que les choses sont améliorées depuis. Hein.
Si
vous étiez Gazaoui, c'est pas ou otage,
oui,
ça pourrait être un bon moment.
Hein. Ouais, c'est clair. Bah, c'est sûr, il y a tout un chantier, enfin toute une situation à rétablir pour Donald Trump. Et là-dessus, à mon avis, il serait pas opposé. D'ailleurs, je crois qu'il a émis l'idée ce week-end. Il serait pas opposé à l'anéantissement des infrastructures militaires iraniennes de la part d'Israël en tant que proxy un peu de l'armée américaine, quoi.
Oui, mais c'est un sacré pari, hein, parce que.
Ouais.
Je sais pas s'il faut y aller. Ouais, moi, personnellement, je crois que ce qu'il va essayer de faire, c'est d'essayer d'avoir arrivé à un truc où, je vais dire peut-être une ânerie, les États-Unis se débarrassent de Netanyahou et les Iraniens se débarrassent des Mollahs.
Mmh.
S'il y a un deal, ça devrait être celui-là, quoi.
Ouais. Il paraîtrait que Donald Trump, qui quand même historiquement s'entend plutôt bien avec Netanyahou, on a de plus en plus marre de ce dernier, qu'apparemment il est peut-être un petit peu trop dur dans ses demandes, et que Trump voudrait peut-être avoir quelqu'un d'un peu plus calme et malléable.
Oui. Parce que Netanyahou, c'est quand même visiter l'Égypte et ses pyramides, quoi. Vous savez jamais où ça va s'arrêter, l'expansion d'Israël, quoi. Donc,
Oui, non, c'est sûr que, comment dire, la volonté, comment dire, d'expansion d'Israël.
C'est bien de vouloir avoir une zone de sécurité autour de soi.
Mais c'est aussi une menace derrière à la sécurité du pays, parce que c'est ce qui provoque aussi.
Au fur et à mesure que vous écartez du centre, plus ça devient difficile à maintenir, parce qu'il faut une.
Sûr.
Donc. Il me semble qu'il serait temps que peut-être Israël passe à un autre modus operandi, mais à condition qu'on débarrasse Israël des Mollahs, quoi.
Oui. Enfin, oui. l'Iran des mollahs. Et derrière, je voudrais évoquer aussi la relation entre la Chine et les États-Unis, parce que ça, on l'a quand même pas mal commenté, tout ce qui s'est passé en termes de tarifs, de droits de douane. Donc d'abord, l'annonce des droits de douane avec le Liberation Day, et ensuite le canal vraiment spécifique à la Chine, où alors qu'il avait annoncé une pause des tarifs de 90 jours, il avait dit... pour tout le monde, sauf pour la Chine, et même pour la Chine, je les augmente. Et Xi Jinping répondait en augmentant à son tour. Et à chaque fois, c'est monté jusqu'à 154%, ouais, 145%, pardon.
Ce qui voulait plus rien dire.
Voilà, côté américain, c'est-à-dire, et 125% côté chinois. Autant dire, on arrête les relations commerciales directes entre la Chine et les États-Unis, quoi. Et tout allait passer par un pays tiers qui, lui, allait récolter une partie du pactole, quoi. Et donc,
ce qui est pas évident. Parce que vous savez, pour que d'abord les relations étaient immenses,
ouais,
et sûr. Ensuite il faut avoir des ports, il faut avoir des routes, etc. Parce que le port de Shanghai, si vous voulez, c'est un monstre. Et même si Hanoï s'y colle, même si le Vietnam s'y colle, il faudra 30 ans pour qu'ils bâtissent des infrastructures,
oui, bien sûr,
suffisantes. Parce qu'il faudra amener les produits de Chine au Vietnam, puis de Vietnam dans un port. Ce port devra être gigantesque. Ensuite, les gens verront que ça vient de Chine, donc ils gueuleront, ouais, aux États-Unis.
En fait, c'était déjà le cas. C'est-à-dire, il y a énormément d'importations, enfin d'exportations du Vietnam vers les États-Unis qui, en fait, venaient déjà de la Chine, qui avaient déjà des droits de douane. Mais à mon avis, j'imagine que les capacités du Vietnam étaient déjà pleines.
Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la Chine est extraordinairement bien organisée à cause des infrastructures qu'ils ont faites, qui sont toutes neuves. Donc, autrefois, vous aviez de la production en Chine que dans les ports, sur la côte. Et puis, ils ont fait des infrastructures qui rentraient dans les terres pour aller chercher les grandes villes qui étaient dans les terres. Et donc, vous avez des systèmes de transport des marchandises qui sont absolument prodigieux, qui vous amènent ça du milieu de la Chine, directement à Shanghai en une journée ou deux. Puis de là, ça va sur un bateau, c'est tout automatisé, ça part. Donc, vous n'imaginez pas le côté logistique,
ouais,
incroyable, qu'ont développé les Chinois. Donc, ils sont des années-lumière devant tout le monde. S'ils pouvaient faire ça pour l'Inde, ce serait bien d'ailleurs, ça aiderait.
Oui, c'est sûr. Et alors, donc on était à ce pinacle-là avec les droits de douane complètement délirants. Et d'un seul coup, des escalades. Donc là, ce week-end, Scott Bessent, donc secrétaire du Trésor américain, a rencontré son homologue à Genève pour conclure un accord préliminaire. Donc cet accord prévoit une réduction temporaire des tarifs douaniers et la mise en place d'un mécanisme de dialogue régulier pour éviter de futures escalades. Donc c'est-à-dire que les tarifs qui étaient de 145% côté américain passent à 30%, et ceux qui étaient à 125% côté chinois passent à 10%. Et ça aussi, c'est pour 90 jours, et en plus de ça, Trump a dit qu'il allait de nouveau discuter avec Xi Jinping pour de nouveau faire des accords commerciaux.
Alors, c'est important, parce qu'en effet, on met en place un système de discussion permanent, ce qui est toujours une bonne chose.
Bien sûr.
Mais le vrai problème de la Chine aujourd'hui, c'est que sa monnaie est grotesquement sous-évaluée. Si vous prenez la parité des pouvoirs d'achat, c'est-à-dire, ouais, le prix du McDonald's, là.
Voilà, c'est-à-dire que, en toute logique, si on était dans une économie véritablement logique,
la monnaie est remontée de 50%.
Voilà, on irait acheter des Big Mac à Shanghai et puis on irait les revendre, je sais pas où, en Europe, aux États-Unis.
Voilà, mais là, on peut pas le faire, ça. Mais si vous voulez, il y a ce qu'on appelle l'indice Big Mac, c'est pour voir de combien les monnaies sont sous-évaluées. Bon, ben, le Big Mac, il doit être à 3 $ à Shanghai, et il doit être à 6 $ à Berlin, quoi. Donc, la monnaie chinoise est grotesquement sous-évaluée. Ils ont l'appareil industriel le plus performant du monde. Ils ont les capacités, ils ont les ingénieurs, ils ont tout. Maintenant, ils ont une énergie aussi qui est très abondante, puisqu'ils sont en train de monter une centrale nucléaire et à charbon comme des fous. Et leur monnaie est bloquée à 7 depuis des années. Donc, vous pouvez pas vous empêcher de penser qu'elle devrait être à 5,5, quoi. C'est-à-dire, elle est passée de 7 à 5,5, ça ferait 1 an et demi, ça ferait, enfin, il faut réévaluer la monnaie chinoise, parce que, aujourd'hui, leurs excédents des comptes courants, de la balance commerciale, est d'à peu près 1100 milliards de dollars. C'est-à-dire, ça fait 4% des exportations mondiales. Les excédents chinois font 4% des exportations mondiales. C'est monstrueux.
C'est monstrueux, ouais.
C'est même pas envisageable. Donc, quand je regarde ces excédents chinois, je ne comprends pas. Je me dis, mais comment, bon, comment peuvent-ils espérer que ça va continuer à monter, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est à...
Oui, maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, à terme, ils vont juste aspirer toute la richesse mondiale et ne rien en faire derrière, quoi.
Ben, s'ils aspirent la richesse mondiale et puis qu'on les paye en dollars et que ces dollars sont bloqués dans des banques à Hong Kong et qu'on n'en fait rien, c'est-à-dire qu'ils nous appauvrissent, ils s'enrichissent pas.
Oui.
Et donc, ils achètent moins à l'extérieur. Donc, on se dit, mais c'est un système imbécile.
Oui.
Leur principe, le système capitaliste marche si celui qui est très efficace voit sa monnaie monter, comme les francs, comme les Suisses. Imagine les Suisses, si leur monnaie n'était pas montée, ce serait effrayant pour personne pour acheter un produit suisse tellement. Il n'y aurait personne pour faire quelque chose en France tellement il serait efficace. Donc, si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont déclenché un système mercantiliste, c'est-à-dire pour eux, avoir des excédents, c'est la preuve qu'ils réussissent. Mais s'ils ont trop d'excédents, ils vont foutre les autres en faillite. Ils échouent. C'est donc un peu comme les États-Unis qui ont dévalué en 1934 sous Roosevelt, alors qu'ils avaient des excédents des comptes courants. En dévaluant, ils ont transformé une récession en dépression, quoi.
Ouais.
Pour le reste, pour les autres. Donc, ce qui m'embête aujourd'hui avec les Chinois, c'est que ils s'abritent derrière Trump qui est idiot, qui fait ceci, qui fait ça, très bien. Mais la responsabilité première de la situation, c'est plutôt eux que les Américains, quoi. Parce qu'ils ont maintenu cette monnaie complètement idiote.
Et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour
justement réévaluer leur monnaie? Au moins, à ce moment-là, quand leur monnaie montera, le type qui est payé en Chine, d'abord, toutes les importations seront moins chères. Et puis, il pourra aller visiter la Thaïlande, le Japon. Ouais. Il pourra sortir, dépenser son pognon, parce qu'il aura un pouvoir d'achat énorme. Vous verrez plein de Chinois en Inde et visiter Notre-Dame.
Ouais. Bon, ça, c'est déjà pas mal le cas.
C'est déjà pas mal le cas, mais... Donc, ce qu'il faut, c'est... Si votre population est très productive et qu'elle gagne très bien sa vie, qu'elle fait du très bon travail, son niveau de vie doit monter.
Oui.
Et la preuve que ça va monter, c'est le taux de change. C'est-à-dire, ils maintiennent dans une espèce de sous-consommation les Chinois, sans que je comprenne très bien ce qu'ils en attendent à la sortie, quoi.
Oui. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que la Chine s'enrichit dans le sens où elle engrange énormément de richesses de par le monde, mais que le niveau de vie des Chinois ne monte pas en conséquence.
C'est idiot, quoi. C'est idiot, c'est... Donc, là, il y a un déséquilibre qui est monstrueux, c'est ce déséquilibre de la balance commerciale chinoise, quoi.
Ouais.
Qui est tout simplement insensé.
Ouais. Qui aspire plein de richesses
qui détruit les appareils industriels des autres pays en étant maintenu à ce niveau-là, ben oui.
Mais c'est ça, parce que derrière, il y a aussi... Si la monnaie chinoise se réévalue, derrière, ils vont forcément moins exporter.
Ben, ils vont moins exporter, c'est ils vont plus importer, ils vont moins exporter, et surtout, ils seront obligés de faire ce qu'ont fait les Suisses, d'aller vers des actifs de plus en plus... efficace, enfin cher, à forte valeur ajoutée.
Et derrière, d'autres pays vont pouvoir aussi exporter vers la Chine, qui aura du coup un marché de consommateurs beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Un peu comme ce qu'est le marché américain aujourd'hui, d'ailleurs.
Mais voilà. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que on a bloqué les taux de change un peu partout dans le monde, en Europe, toutes les bêtises et tout bon. Et aujourd'hui, la Chine, ça fait quoi, 4-5 ans qu'elle est à 7,1, 7,2 yuan par dollar. Bon. Mais il devrait être à 5. Mais ils ont tout fait pour l'empêcher parce que je sais pas pourquoi. Donc ils ont une espèce de... Si vous voulez, c'est l'équipe de... Où il n'y a que des cadors au foot, là, les meilleurs joueurs du monde, et qui veut jouer qu'en 3e division, quoi.
Oui.
Ben évidemment qu'ils gagnent la 3e division.
Oui.
Mais c'est le moment où il faut sortir l'équipe et aller les faire jouer contre les grands.
Oui. Assumer vraiment un statut de puissance évolué, quoi.
D'accepter que sa monnaie monte, quoi.
Oui.
Ils sont plus le Zimbabwe, hein. Donc là, il y a quelque chose chez eux, un blocage que je m'explique mal. Parce que c'est un blocage intellectuel. C'est-à-dire qu'ils pensent que cet argent que ces gens ont gagné en Chine, qui a ensuite été laissé en dehors, en Hong Kong, etc., ce serait dangereux de le redonner aux Chinois. Parce que peut-être ils viendraient plus libres, plus indépendants, ils commenceraient à gueuler, j'en sais rien.
Ouais.
Donc il y a quand même...
Oui, mais à la fois, peut-être qu'ils commenceraient à le faire aussi s'ils ne libèrent pas ces liquidités.
Voilà, exactement. Donc Quelque part, il y a un manque de confiance dans leur population. Quoi.
Ouais, peut-être. C'est peut-être un facteur limitant, effectivement.
Mais en tout cas, ça ne peut pas durer.
Ouais, d'accord. Ensuite, je voudrais parler de la Turquie. Parce que la Turquie, on n'en a pas trop parlé dernièrement, mais il y a une répression politique qui est assez, assez forte. Donc, d'abord, je voudrais parler du maire d'Istanbul, donc Ekrem İmamoğlu, qui est toujours en taule, effectivement, depuis le 19 mars. Donc, c'est le principal opposant politique d'Erdogan, qui est donné de plus en plus haut dans tous les sondages d'opinion, et encore plus depuis qu'il est en prison, justement, pour le coup.
Comme ça qu'Erdogan avait commencé sa carrière, d'ailleurs, en allant en taule. Hein.
Oui.
Il y a longtemps, mais en fait,
oui,
il avait commencé.
Oui, ça fait 25 ans maintenant, oui, ça fait peut-être même un peu plus. Et donc, alors, début 2025, tout un tas d'arrestations ont lieu, des arrestations de journalistes, d'élus du parti d'opposition, le CHP, le parti pro-kurde. Donc, le 19 mars, İmamoğlu est arrêté, accusé de corruption, de terrorisme. Plus de 100 personnes liées à cette personnalité, İmamoğlu, ont aussi été arrêtées, tout comme plus de 1000 manifestants et 10 journalistes, dont un d'ailleurs de l'agence France-Presse. Les chaînes de télévision ont depuis l'interdiction d'évoquer les manifestations anti-Erdogan, le pouvoir réduit les bandes passantes des réseaux sociaux pour pas qu'on parle des problèmes du régime. İmamoğlu a même vu son diplôme universitaire annulé, sachant que en Turquie c'est obligatoire d'avoir un diplôme universitaire pour se présenter à la présidentielle. Et puis en parallèle, on a quand même une économie turque qui est vacillante, puisque on a une inflation qui continue, qui est à 44% actuellement, sachant que c'était déjà très très haut les années précédentes.
Ah, la monnaie turque, c'est pas un bon investissement.
Non, historiquement, c'est plutôt oui. Faut plutôt parier sur l'inverse, effectivement. Donc voilà, que penser de cette situation en Turquie ? Est-ce que Erdogan, à votre avis, peut continuer à pratiquer ce genre de répression ?
Il faut se souvenir que la Turquie, c'était la sublime porte. Vous savez, c'est là où il y avait le gouvernement, c'était le sultan. Ils ont détruit leur monnaie je ne sais pas combien de fois. Vous voyez, il y avait un gros livre que j'avais vu un jour qui était l'histoire des monnaies turques. Il y en a eu un paquet. Hein, donc, qu'il y en ait une de plus qui disparaît, ce n'est pas grave. Ça a toujours été un pays très impérial. C'est-à-dire qu'il y avait... Il y avait toujours, si vous voulez, la façon dont les Turcs fonctionnaient, c'est qu'il y avait les hauts fonctionnaires turcs, l'armée turque, et puis ils gouvernaient des Arabes, des chrétiens, des juifs, des arméniens partout, et la façon, tant que personne ne bougeait, il se passait rien, puis s'il se posait quelque chose, on envoyait l'armée, on tuait tout le monde, et puis ça emmenait. Donc la Turquie s'est jamais fait remarquer par son côté humanitaire, démocratique. Alors il y a eu Kemal Atatürk, qui a transformé le système politique turc, mais qui lui-même était... ce que mon père me racontait, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que avec Kemal Atatürk, au départ... Il a dit il faut qu'il y ait une opposition, parce que tout le monde avait voté pour Kemal Atatürk en Turquie, hein, donc il n'y avait pas d'opposition. Donc il a dit à un certain nombre de gars, toi tu seras dans l'opposition, toi tu seras dans l'opposition, parce que ça ne fait pas sérieux s'il n'y a pas d'opposition. Je veux qu'il y ait une opposition. Donc, ouais. Donc il y avait un tiers qui l'avait désigné comme étant dans l'opposition. Donc les types, au bout d'un certain temps, ils se sont mis à vraiment s'opposer, parce qu'ils se sont dit pourquoi pas, quoi. Et donc il les a tous fait pendre. Mais enfin, vous voyez, c'est une notion intéressante de l'opposition.
Oui, quoi. Effectivement.
Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est que il y a eu une tentative d'imposer la démocratie en Turquie, mais enfin, ça a toujours été à ras des pâquerettes, il n'y a pas eu. Et la vraie puissance en Turquie, ça a quand même été toujours l'armée. C'est donc. Il y avait une tentative, il y a eu une espèce de faux coup d'État il y a 3-4 ans, je me souviens, où l'armée avait essayé, mais c'était pas bien organisé. Bon, ils ont été liquidés, les généraux et tout. Donc la vraie question, c'est est-ce que Erdogan continue à avoir le soutien de l'armée.
Je pense que oui, quand même, en grande partie. Et de la justice aussi.
Et de la justice.
Il a, globalement, il a l'armée et la justice.
La justice, ça n'a jamais gêné personne en Turquie. C'est un...
Non, mais du coup, enfin...
Oui, enfin, il a les juges, un certain nombre de juges.
On s'en fiche un peu, mais c'est la justice qui a retiré le diplôme universitaire. Putain,
voilà, mais ça, c'est pour se faire bien voir. Mais par contre, j'ai vu que le mouvement kurde... à la limite de la Syrie, de la Turquie, qui faisait la guérilla depuis 40 ans, ça, c'était dissous.
Ouais.
Donc, à partir du moment où il n'y a plus, mettons qu'il n'y ait plus l'ennemi kurde, là, qui en veut à l'intégrité territoriale de la Turquie, à partir du moment où vous n'avez plus de Kurdes, ça va devenir peut-être plus difficile pour Erdogan de rester. Quoi.
C'est ça, en fait. Si vous n'avez pas d'ennemis extérieurs qui cristallisent l'unité du pays...
Et qui maintient l'unité de l'armée.
Voilà, exactement, en disant « Regardez, moi, je suis le rempart contre cette menace extérieure. Bah, s'il n'y a plus cette menace extérieure, bah, la menace, elle va venir de l'intérieur, finalement. »
C'est-à-dire que les gens vont dire « Bon, ben, nous, on n'a pas vraiment besoin de... je sais pas, de recevoir des coups de pied dans le derrière de l'armée tous les jours quand on passe. Donc, et puis en plus, la Turquie c'est un drôle de pays parce que vous avez bon ce qu'on appelle les Stamboulotes, les habitants d'Istanbul qui sont tous des Européens, non, si j'ose dire normaux. Enfin. Puis vous avez les paysans en Anatolie.
Oui, c'est très différent.
Qui sont alors les Stamboulotes, ils avaient un ou deux enfants et puis là-bas ils en avaient 7 ou 8 et donc
ouais.
La démographie. Les partis à quitter Istanbul pour aller vers les paysans d'Anatolie. Si la démographie commence à baisser chez les paysans d'Anatolie, ce qui est probablement le cas.
Ce qui est le cas, oui, absolument.
Et donc, ça risque de rééquilibrer. Donc. Moi, j'ai été en Turquie, bien sûr. Et c'est très curieux parce que c'est un vrai pays. Parce que quand vous allez dans... Il y a des tas de pays où vous allez dans le monde où vous dites que ce n'est pas un vrai pays. Non, mais ça n'a jamais été un pays, ça a été installé, j'en sais rien, par exemple. Bon, l'Ukraine, ça n'a jamais été un vrai pays, ça a été un merdier au milieu, enfin, personne ne comprenait, mais c'était pas un vrai pays, il n'y a pas de... Parce que la Turquie, c'est un vrai pays, c'est un vrai peuple, ils sont turcs, c'est un vrai peuple. Vous allez au Mexique, c'est pareil. Vous allez au Venezuela, vous dites, c'est pas un vrai pays, c'est n'importe quoi. Mais les Mexicains, c'est un vrai peuple, vous sentez une espèce d'unité nationale. Comment, à part ça, il y a des tas de trucs qui ne marchent pas. Mais... Donc, vous pouvez être un vrai pays et il n'y a pas d'État qui marche, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la Turquie, c'est un vrai pays, mais il y a des lignes de fracture à l'intérieur qui sont incroyables. Quoi.
Oui. Puis aujourd'hui, il y a aussi une fracture vraiment générationnelle, c'est-à-dire que les plus jeunes, qui sont généralement d'ailleurs des urbains, comme vous l'avez dit, sont beaucoup plus progressistes, eux se tournent plus vers l'Europe que vers
ils entendraient bien qu'on leur foute un peu la paix, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que nous, alors les musulmans qu'on a chez nous sont assez pratiquants, mais c'est pas du
tout. C'est pas la même chose. C'est pas des Turcs, c'est des Arabes, c'est pas pareil du tout.
Oui, ouais. les
femmes turques c'était des robustes. Oui, je sais pas si elles étaient très masquées, hein, très voilées. Hein. Dans mon histoire,
non, pas forcément. En fait, les Turcs qui sont en Europe sont, pour le coup, sont assez musulmans, sont très patriotes et votent énormément pour Erdogan. D'ailleurs, toute la diaspora turque en Allemagne, elle a un vote Erdogan absolument massif, c'est plus de 80%. En revanche, les jeunes stambouillotes, c'est vraiment très très différent. Eux sont beaucoup moins pratiquants, sont beaucoup plus tournés vers le reste du monde, quoi.
Alors, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Alors, il y avait aussi autre chose, c'est que vous aviez des points d'équilibre très forts dans la société turque, qui étaient les minorités arméniennes, juives, chrétiennes, etc., qui faisaient 20-25% de la population, qui assuraient les liens de la Turquie avec le reste du monde, avec leur communauté dans les autres pays, etc. Ça a disparu dans les 30 dernières années. Donc, la Turquie est devenue beaucoup moins diverse qu'elle n'était. Beaucoup moins diverse. Elle est devenue beaucoup plus turque. Donc, c'est un pays en déséquilibre, mais qui a des forces immenses. Donc,
oui.
Je me fais pas trop de soucis pour la Turquie, mais je me ferai un peu plus de soucis pour la démocratie turque. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas certain que dans le turc de base, la liberté de la presse soit. Le premier sujet, quoi.
Ouais, oui, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, 90% des chaînes de télé, au moins, sont contrôlées directement par l'État, et l'État, il sert bien la vis. Hein.
Vous, vous, C'est comme en France, alors.
C'est pas si loin que ça, finalement. Bon, enfin, quand même, en France, on a le droit de parler des manifestations, mais bon, oui, c'est bien sûr, en France, parfois, on donne des leçons de démocratie à d'autres pays. C'est clair que parfois, on a peut-être plus de leçons à recevoir qu'à donner.
Oui.
Après, on n'est pas encore au niveau de la Turquie, je trouve, en toute honnêteté. Faut dire, Marine Le Pen n'est pas encore tout à fait en prison. Elle n'est pas... Bon.
Ah, attendez, ça
mais,
va venir.
Mais ça viendra. Je n'en doute pas. C'est en cours d'acceptation.
C'est en cours d'amélioration, ça.
Ouais, absolument. Donc voilà pour la Turquie, c'est difficile.
C'est-à-dire que je
ne
fais pas de souci pour la Turquie, mais c'est un élément de déstabilisation. Et ce qui m'a toujours fait peur à la Turquie, c'est ce que disait Solzhenitsyn, c'est que toutes les populations qui vont de la Turquie jusqu'à la Chine, là, le nord de l'Himalaya, c'est tous des turcophones.
Absolument.
Et donc, si un jour il y a un grand homme d'État qui se lève en Turquie, il va refaire l'Empire mongol en deux minutes, quand même.
Ouais. C'est un peu ce que Erdogan a envie de faire, au fond.
Oui, mais je crois pas qu'il est là. Puis il est trop vieux maintenant.
Oui, il est un peu vieux.
Mais c'est une des possibilités historiques. Il y a cette population qui, et à ce moment-là, c'est la Chine qui a un problème.
Oui. Et on en discutait il y a quelques semaines, effectivement.
C'est la Chine qui a un problème. Donc, prier pour le réveil de la Turquie, c'est pas une bonne idée, quoi.
Non, non, tout à fait. Nous, on préfère qu'il soit sous morphine.
Et puis qu'il y en ait plein.
Oui, voilà. Enfin, déjà, en termes démographiques, ça risque de se compliquer un petit peu parce que, alors, autant il y a 10 ans, ils avaient une très très bonne démographie. Même il y a 5 ans, elle était très correcte. Et en l'espace de 5 ans, ça s'est effondré à une vitesse complètement.
Dans le monde entier,
dans énormément de pays. Et autant il y a, enfin, ça fait 20 ans, 25 ans que dans la plupart des pays développés, notamment en Europe, la démographie est un peu en berne, même un peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Autant, ça n'était pas encore le cas dans des pays qu'on considérait comme encore en voie de développement. Et c'est le cas en Turquie, c'est le cas aussi dans tout un tas de pays d'Amérique du Sud, par exemple. Donc ça aussi, ça va être un problème peut-être pour l'humanité. Il y a quelques siècles, on se demandait si on n'allait pas être trop nombreux sur Terre. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à me demander si on va pas être trop peu sur Terre.
Et surtout, s'il ne va pas y avoir que des vieux partout.
Oui, bah oui, forcément. Ouais.
Bah ouais. Ouais. Vous allez vous balader à Zurich, comme ça.
Ah oui.
Vous débarquez à la gare, et puis vous vous promenez dans la grande rue de Zurich, qui est en face de la gare, qui est très belle, d'ailleurs. Vous voyez un bébé une fois tous les 600 mètres, quand même.
Ouais,
des vieux avec des cannes, il n'y a que ça. Hein.
Ouais.
J'ai rien contre les Zurichois, mais
oui.
Je me dis, c'est pas très excitant, comme...
Non, c'est sûr. En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour le système de retraite par répartition. Ça, c'est...
ça me paraît pas jouable. Hein.
Voilà. Et dernier petit sujet, c'est... alors, je sais pas d'où ça lui vient. D'ailleurs, il avait déjà fait un petit peu le même coup il y a 6 mois. Mais c'est Keir Starmer qui s'en est pris à l'immigration, donc le premier ministre anglais. Oui, il avait déjà fait un petit discours dessus, mais qui n'était pas suivi des faits. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il commence à dire que bon, il y a trop d'immigrés. Alors, il n'est pas tout à fait étranger à ce fait non plus, mais il dit que voilà, depuis le Brexit et même d'autant plus depuis le Covid, il y a eu une explosion de l'immigration, notamment venue d'anciens pays du Commonwealth, et que ça commence à suffire. Et donc, il a formulé quelques annonces. Déjà, l'instauration d'un seuil de compétence de l'immigration, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins un diplôme pour avoir un visa. Augmentation de la taxe sur les employeurs lorsqu'ils font travailler des immigrés, c'est-à-dire qu'il expliquait que cette taxe, elle n'avait pas bougé depuis 2017 et qu'il n'y avait pas de raison. Augmentation du niveau requis en anglais aussi pour venir vivre en Grande-Bretagne.
Augmentation... Ça va être dur pour les Écossais, hein.
Et pour les Gallois, augmentation du temps passé sur le sol anglais pour avoir la nationalité qui passe de 5 à 10 ans et fermeture de la voie des visas pour soins. Donc voilà, il annonce tout un tas de mesures qui sont destinées à limiter l'immigration.
On sent que Farage est passé par là. Quoi.
On sent qu'il y a 25% d'intention de vote pour Farage.
Et 33% les dernières.
33% dans certains sondages, effectivement, ça va entre 25 et 30, quoi, globalement. Et je tiens à rappeler quand même que Keir Starmer, le premier truc qu'il avait fait lorsqu'il était arrivé à Downing Street, c'était révoquer le protocole de accueil de migrants par l'intermédiaire du Rwanda, qui venait tout juste d'être décidé par le conservateur précédent.
L'idée, c'est que si on trouvait des gars et qu'on savait pas d'où ils venaient, on les mettait dans des avions, on les menait au Rwanda, où il y avait des camps de concentration.
Voilà, en gros, le temps qu'on étudie leur dossier.
Et ça pouvait prendre du temps, vous savez.
Ça pouvait prendre du temps. Enfin, je pense que l'idée, c'était surtout d'être dissuasif. C'est-à-dire que jusque-là, vous alliez en Grande-Bretagne, puis ensuite, on étudiait votre dossier. Donc, vous étiez content, vous étiez déjà sur place. Alors que si on vous dit que d'abord, il faut passer par le Rwanda, vous dites, bon, je vais aller ailleurs.
Voilà. Ou je vais rester en France.
Voilà.
Parce que faut vous dire un truc, c'est que tous les gars qui arrivent en Angleterre, si j'ose dire,
ils passent
par la France. Ouais. Là, donc, ça va pas régler nos problèmes, ça. S'ils arrivent là et qu'on les empêche de passer de l'autre côté, ils vont rester chez nous, non?
Oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'en réaction, il faut nous aussi...
Vous croyez que M. Mélenchon va dire il faut arrêter tout ça aussi, comme M. Starmer est en train de le faire?
Ouh, je pense pas. Je pense que Mélenchon, c'est on va appuyer sur l'accélérateur.
Oh, ça on sait jamais. Un homme politique, ça se transverse vite. Hein, donc, je me dis que peut-être M. Mélenchon, si M. Starmer, qui était un gauchiste invétéré et qui n'avait aucun caractère et qui a trouvé qu'il n'y avait jamais assez d'immigrés, décide qu'il y a trop d'immigrés.
Oui, oui.
Peut-être que Mélenchon va voir la lumière.
Oui. Après, voilà. Mélenchon a déjà fait le chemin inverse, où lui, il n'était pas forcément très fan de tout ce qui était islam, etc. Il refusait catégoriquement d'utiliser le terme islamophobie il y a de cela 10 ans, et en 2015. Et depuis, il a beaucoup changé.
Moi qui ai fait du grec, vous savez, quand j'étais petit, hein, parce que comme j'étais dans des bonnes écoles de jésuites, on faisait grec et latin. Difficile le grec, hein. Ils écrivent pas pareil en plus.
Oui, moi j'ai fait du latin et il y en avait qui faisaient du grec, alors j'étais pas particulièrement jaloux. Hein.
Non, moi j'ai fait du grec aussi. Et phobos, ça veut dire la peur. Donc islamophobie, ça veut dire avoir peur des musulmans.
Oui.
Mais moi qui suis né dans les pays arabes et qui ai vécu dans les pays arabes, etc., je vais vous dire un truc, j'ai très peur des musulmans.
Oui, mais alors, phobos,
maintenant, on en a fait une condamnation.
On sous-entend que c'est un peu une peur irrationnelle.
Irrationnelle. Ben, moi, par exemple, je suis né à Alep, il y avait 50% de chrétiens à Alep en 1945. Quand je suis né en 43, quand je suis né, il en reste 1%. Donc, ouais. Il me semble que, peut-être, les chrétiens, d'excellentes raisons au Moyen-Orient, d'être phobique des musulmans, si vous êtes libanais.
Historiquement, on a des raisons de penser que plus il y a de musulmans dans un pays, plus le pays devient musulman, et plus le pays devient musulman, plus les autres minorités, enfin, qui étaient autrefois peut-être des majorités qui sont devenues des minorités, vont être amenées à devenir encore plus minoritaires, voire à disparaître.
Ça, vous n'avez qu'à voir les coptes en Égypte, etc., qui étaient quand même tout à fait majoritaires, et qui sont les Égyptiens de départ, si j'ose dire, qui étaient chrétiens. Donc, avoir peur de la religion musulmane, me paraît un truc parfaitement normal. Je vois pas pourquoi me faire traiter d'islamophobe, c'est-à-dire que j'ai la trouille de la religion musulmane. Oui, j'ai tout à fait la trouille de la religion musulmane, et contrairement à la plupart des autres, je la connais et je sais pourquoi j'ai la trouille. Mmh. Donc je dis simplement en passant, c'est que islamophobe, c'est comme si vous étiez raciste. C'est pas que vous êtes raciste, ça veut dire que vous êtes au courant de la réalité, quoi. Ça, c'est pas être raciste. Ouais.
Ce qui échappe d'ailleurs même à la volonté d'énormément de musulmans, qui individuellement, eux, ils n'ont pas forcément envie que le pays devienne musulman et islamique. Mais même sans le concours de leur volonté, par la force des choses, historiquement, c'est ce qui se passe, quoi. Dans tous les pays musulmans, ceux qui sont pas musulmans, ils n'ont pas toujours voix au chapitre, quoi. Même assez rarement.
Assez rarement. Donc voilà, c'est que la réalité, c'est ce que disait. Jacques Ellul, qui était un homme très éminent, qui était un sociologue, qui était aussi l'un des patrons de l'Église protestante de France, un théologien, enfin bref, il disait, il était farouchement pour l'immigration en France, disait-il, il faut accepter tout le monde, il disait, sauf les musulmans, parce que leur société est fondée sur la violence. Toute leur civilisation est fondée sur la violence. Donc, on ne peut pas accepter des gens qui sont sur la violence. Donc, ils disaient, acceptons toutes les populations asiatiques et tout. Je suis assez d'accord.
Ouais.
Mais est-ce que la société musulmane est une société qui peut se mélanger à une autre? Ben là, c'est une question qu'on devrait poser en France.
Oui, non, mais c'est clair qu'il y a des civilisations, des cultures qui sont plus ou moins solubles.
Ben, les frontières de l'islam sont sanglantes partout. C'est pas en Inde, ça va pas partout.
Oui, ben on vient. On vient
en Chine, ça va pas. Nulle part, ça va quoi. Donc il y a peut-être quelque chose de spécial avec eux. Je dis et demander à ce qu'on fasse une étude. Est-ce que par exemple, Elul, il avait reçu le grand le patron de la mosquée au Caire, que vous savez qui est la grande mosquée arabe. Un peu le Vatican du coin, et ils avaient fait 4 ou 5 jours de débat à Bordeaux, c'était il y a 30 ou 40 ans, pour savoir si l'islam était compatible avec la démocratie. Et Elul et le grand mufti, je sais plus quoi, avaient dit non, c'est pas compatible.
Ouais.
Donc, si les savants de la religion musulmane vous disent que l'islam n'est pas compatible avec notre système démocratique, peut-être on devrait y prêter attention, je sais pas.
Ouais.
Et c'est pas être raciste, hein, parce que la religion, c'est pas quelque chose qui a la couleur de peau, ouais. C'est juste des idées dans la tête.
Oui. Et puis, ça bouleverse totalement les clivages politiques dans les pays qui en reçoivent. C'est-à-dire que c'est un peu le prolongement d'un raisonnement de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew a observé comment se comportaient les systèmes de jury dans la justice aux États-Unis. Et il a observé que le problème de ce système-là, c'est que ça marche dans une société qui est assez homogène, parce qu'on réfléchit surtout en tant qu'individu, avec ses intérêts plutôt personnels. Du coup, on réfléchit surtout en termes d'intérêts économiques. Mais lorsqu'on commence à avoir une société multiculturelle, on réfléchit en termes d'intérêts de communauté. Et ça avait été particulièrement...
Il faut savoir qu'à Singapour, il y avait des musulmans, il y avait des Chinois, voilà. et il y avait des Indiens. Voilà. Il y avait les trois races.
Et donc, c'est pour ça que Lee Kuan Yew voulait pas de système de jury dans la justice de Singapour, parce qu'il disait, sinon, en fait, chacun va juste juger en fonction de sa communauté. Ça a été un petit peu illustré, d'ailleurs, avec l'affaire O.J. Simpson, où on voyait que, globalement, d'ailleurs, il y a plein de vidéos là-dessus, c'est complètement dingue. On voit des gens qui réagissent dans la rue, devant des télévisions, etc.
En fonction de leur groupe.
Voilà, en fonction de leur groupe ethnique. Et on se dit, on peut pas avoir une justice qui se fondent là-dessus, et il y a le prolongement de ce fait-là sur la démocratie, c'est-à-dire que pareil, de la même manière qu'on décide.
On l'a vu dans la police aujourd'hui, la police étant blanche et les victimes étant souvent noires, voilà. Et si vous voulez, on l'a vu le Black Lives Matter, c'était quelque chose qui était de porter un peu un jugement dans leur essence sur la police, c'est-à-dire cela était dans leur essence non coupable, et cela était par essence coupable. Ça, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir de jury à ce moment-là.
Oui. C'est ça. Et on voit, par exemple, en France, les musulmans votent très massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Dès le premier tour, c'est 80-90% du vote musulman, ça va à Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de hasard. Et du coup, on peut, à juste titre, s'attrister des questions de politique, d'identité, etc. Mais elles deviennent, par la force des choses, existantes et même proéminentes à partir du moment où on a...
Mais la gauche ne peut plus être majoritaire en France si elle n'incorpore pas...
Bah oui.
Les troupes de Mélenchon.
Bien sûr.
Donc ça veut dire que la gauche est obligée de prendre Mélenchon.
Bien sûr.
Parce que sinon, jamais ils seront au pouvoir.
C'est clair. Et d'ailleurs, Mélenchon, autrefois, il y a 10 ans, 15 ans, il était plutôt opposé au rapport Terra Nova, qui disait globalement la gauche, elle doit observer l'immigration, elle doit se concentrer sur les peuples qui viennent d'ailleurs et pas sur les petits Français, quoi. Et Mélenchon, au départ, était plutôt opposé à cette stratégie. Il a essayé pendant un certain temps d'aller voir les Français de la campagne, etc. Et en fait, ce qui en ressort, c'est qu'il n'aime pas le peuple français.
Le peuple français s'intéressait beaucoup plus à ce que disait Le Pen qu'à ce que disait Mélenchon. Bah oui.
C'est ça, au départ, c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de reprendre un petit peu les, entre guillemets, fâchés mais pas fachos, quoi. Mais il a vu que même ça, il n'y arrivait pas. Et que donc, il a commencé à aller voir les cités et il a commencé à voir que c'était beaucoup plus facile de prendre des votes là-dedans, quoi.
Et ça nous laisse dans une situation très difficile en France où finalement, vous avez, mettons que la gauche fasse 50 et la droite fasse 50 pour simplifier les choses. Dans les 50 de gauche, vous en avez 15 qui sont donc d'origine ethnique. Et ça veut dire que la gauche ne peut plus gouverner sans Mélenchon.
Bah oui, bien sûr.
Donc, aux prochaines élections présidentielles, ils vont tous s'embrasser sur la bouche en disant « aimons-nous à nouveau ».
Oui.
C'est sûr.
Bien sûr, bah c'est ce qu'ils font à chaque fois, hein. C'est ce qu'ils ont fait en 2022, c'est ce qu'ils ont fait en 2024, alors même que pendant toute l'année qui avait précédé, ils s'étaient mis sur la gueule, et les Glucksmann, etc. de ce monde, jusqu'au jour de la dissolution, détestaient Mélenchon, et ils avaient tous des problèmes avec la France insoumise, et ils critiquaient absolument tous la France insoumise, et au moment où c'était devenu une nécessité, ils sont tous alliés à la France insoumise. Et aujourd'hui, tant qu'il y a cette immigration-là, ça reste une nécessité pour eux, parce que c'est pas Glucksmann qui va attraper le vote des cités, quoi. Donc ils en ont besoin.
On a ce problème, si vous voulez, qui a existé dans beaucoup. C'est ce qui a foutu en l'air le Liban. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a 2 millions de Palestiniens qui ont été virés de Jordanie, ouais, et puis qui sont arrivés au Liban, ben, le Liban, qui était une société multiconfessionnelle qui tenait en équilibre instable, il a sauté, il a disparu.
Oui, tout à fait.
Donc, ce qui est une bonne, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que les équilibres qu'on pense stables dans nos sociétés vont pas être maintenus. C'est ce que j'ai dit aux gens. C'est, vous pensez que, regardez par exemple, les États-Unis ont bombardé la Serbie là avec Clinton pendant 78 jours de suite. Hein, et ensuite, les États-Unis ont séparé le Kosovo de la Serbie, le Kosovo qui était l'endroit d'où les Serbes venaient, c'était leur. Où il y avait une minorité serbe, puis il y avait une majorité albanaise. Et donc, on peut s'imaginer qu'il y a certaines portions de France qui se retrouveront avec 60-70% de majorité qui ne seront pas d'origine française, qui se révolteront, et à ce moment-là, qu'on nous forcera à nous séparer de ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout certain d'avoir l'unité de la République.
Non, pas du tout, évidemment.
Je sais pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les Serbes ne s'attendaient pas à ce coup-là, parce que pour eux, le Kosovo, c'était leur. C'est là où ils avaient pris une branlée par les Turcs, c'était le cœur de leur pays, quoi. Donc, le fait que c'est toujours été français ne veut pas dire que ça restera, quoi.
Oui, absolument.
Mais encore une fois, je ne prends pas de jugement de valeur, je dis. C'est ce qui se passe quand les populations changent.
C'est absolument, c'est parfaitement logique. Et on ne peut pas chérir les causes tout en déplorant les conséquences.
Mais voilà, c'est le truc de Bossuet, oui.
Exactement.
Et là, dans ma petite ville, là, à Montfavet, là, vous savez où j'ai une maison, j'ai vu que le curé de Montfavet, il a été attaqué par 4 personnes qui voulaient brûler son église. Quoi.
Ouais.
À Montfavet, chez moi.
Ouais.
À côté d'Avignon.
Oui. Oui, c'est sûr, ça fait bizarre, dit comme ça.
Mais tiens, voilà autre chose.
Ouais.
C'est une très jolie église, église gothique, 13e siècle, roman, enfin, pas roman, provençal. Très jolie église, très très belle.
Ouais, elles sont jolies, les églises de la région.
Mais tout est beau là-bas.
C'est mignon.
Voilà, donc, oui, nous sommes dans des périodes de changement de plaque tectonique. Là. Donc,
oui, c'est clair. S'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que les choses ne seront pas demain ce qu'elles sont aujourd'hui.
Ni ce qu'elles ont été hier. Non, c'est fini, ça.
Exactement. Voilà, j'ai bien aimé cette émission, une semaine un petit peu en vrac avec 5 sujets différents. Parfois, c'est un peu nécessaire de faire comme ça. Je vous remercie, bien sûr, d'avoir été attentif pour cette émission. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos sur l'Institut des Libertés.
Et posez des questions, parce qu'on fera faire une émission de questions un de ces jours, comme ça. Voilà.
Oui, tout à fait. Pas une mauvaise idée.
Pas une mauvaise idée.
Voilà, merci beaucoup.